foi. Et vraiment ce thème, c'est non seulement le thème parce que c'est le thème de la semaine, Hébreux 11, mais je pense aussi qu'il y a vraiment une interpellation du Seigneur pour la période dans laquelle nous vivons. Hein. Et on entend beaucoup, on entend parler de, quand on branche les nouvelles, c'est pas toujours gai, hein, au niveau économique, au niveau de la guerre dans le Proche-Orient. Et le Seigneur nous interpelle spécifiquement par rapport à la notion de foi. Et je crois vraiment que la foi que nous avons est vraiment appelée à grandir. La foi que nous avons, merci Seigneur pour la foi que nous avons, chacun a reçu une mesure de foi, me dit la Bible. Il n'y a aucune personne qui connaisse Dieu et qui n'ait pas reçu une mesure de foi. Mais je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous interpelle par rapport au fait de grandir dans la foi. Et que la foi que nous avons, qui a suffi jusqu'à aujourd'hui, probablement ne suffira pas pour les temps qui viennent. Et dans son amour, Dieu nous dit, je veux que vous donniez la foi, vous communiquiez ma foi. La foi de Jésus lui-même. Alors c'est pour ça qu'on va être un peu dans ce thème-là, probablement ce dimanche, mais peut-être d'autres, et rentrer un peu dans le sujet. Le but, c'est qu'on soit interpellé par rapport à cette notion de foi. Fondamentalement, une confiance en Dieu. Et vous savez, cette confiance, elle est testée quand tout est ébranlé. Hein, c'est vraiment là qu'elle est testée. Quand le compte est dans le rouge, c'est là qu'elle est testée, notre foi. Quand nous sommes à lutter avec la maladie, quand nous avons des êtres chers qui sont partis, eh bien, dans ces situations-là, où elle est ancrée, notre foi, voyez. Alors, c'est simplement ça. Alors, bien sûr, on se rappelle aussi que 2009, c'est le début de l'année. On fête un anniversaire. Alors, on a fêté des anniversaires là. Mais on en fait un particulièrement. C'est le 500e anniversaire de la naissance du grand réformateur Jean Calvin. Et Jean Calvin et tout ce mouvement de la réforme qui ont justement mis comme une des bases de la foi seule, la grâce seule, les écritures seules. Vous savez, c'était un renversement. À une période où l'homme voulait être le centre du monde, des gens ont dit, c'est pas l'homme qui est le centre, mais c'est Dieu. Et voyez, on a prié pour Karine, on a prié par rapport à ces médecins qui disent, attention, déviance sectaire, crise mystique, parce que dès qu'on met plus l'homme au centre, on est considéré comme anormaux. Alors bien sûr, par rapport à la norme aujourd'hui, c'est un compliment quelque part. Oui, nous sommes anormaux. L'homme n'est pas le centre, c'est Dieu qui est notre centre. Et nous le revendiquons. Et Dieu, c'est la source de notre foi. Et Dieu, dans Hébreux 11, on va prendre les premiers versets. Il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, on va voir un peu les implications de ça. Mais déjà, l'apôtre ici, enfin, l'écrivain, on ne sait pas exactement les Hébreux, il y en a au niveau de ceux qui disent qui c'est qui a écrit les Hébreux, il y a pas mal de théories. Mais l'écrivain, l'auteur des Hébreux, de l'épître aux Hébreux, en particulier, il s'est adressé à des Juifs. Des Juifs convertis. Mais des Juifs qui étaient toujours en train de remettre la sauce en disant, bon, la grâce c'est bien, mais les œuvres c'est quand même important. Vous voyez? Et alors, ils étaient vraiment tiraillés par revenir en arrière. Revenir en arrière. Revenir à une religion d'œuvres. Et ça, donc, l'épître aux Hébreux, elle remet le centre qui est le Christ. Et dans cet épître aux Hébreux, il est question en particulier de la notion de foi. Alors, la notion de foi, il va leur dire, mais l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, ce qui lie les deux, c'est la foi. La foi est importante dans les deux. C'est pas terminé. Déjà dans l'ancienne alliance, la foi était importante. La foi est importante depuis le début. Au chapitre 10 des Hébreux, il nous est dit ce verset, Habacuc, hein, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la seule façon de faire plaisir à Dieu. C'est la Bible qui me le dit, c'est pas moi. C'est pas une façon de faire plaisir à Dieu. C'est la seule façon de faire plaisir à Dieu. C'est marcher avec la foi. C'est pas une option. C'est la seule façon. Alors, Mon juste, le juste vivra par la foi. Et les Juifs qui ont entendu de puissants arguments pour la nouvelle alliance, on a dit mais cette nouvelle alliance elle est plus importante, etc. Eh bien, ils s'entendent redire que la foi c'est ce qui relie les deux alliances que Dieu a faites. Et cette fois, je me suis dit mais à partir de quand ça a commencé cette histoire de la foi? À partir de quand il a fallu avoir la foi? Eh bien, je crois vraiment que avant que le monde soit créé, avant la fondation du monde, Éphésiens 1:4, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ et le seul moyen que Dieu nous accepte, c'est par la foi. Dieu avait déjà, avant les temps, avant la fondation du monde, établi ce principe de la foi pour nous tous. Alors, la foi, c'est aussi une école, mais la foi, c'est tout départ par cette notion de foi avec Dieu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, quelque part, les hommes de l'Ancien Testament, ils ont dû marcher par la foi, nous aussi. Il y avait des promesses de Jésus, promesses du Messie, promesses d'un Israël qui aurait la paix dans ses terres, etc. Et il a fallu que ces gens-là, ils marchent sans voir, ils marchent par la foi. J'ai un peu du mal à comprendre aujourd'hui comment ils ont fait sans voir. Ils n'ont pas vu grand-chose, mais ils ont marché. Les héros de la foi sont ceux qui n'ont pas vu dans le visible, mais ils ont vu dans l'invisible. Ils ont vu quelque chose. Et ça, c'est important. La foi, c'est pas ne pas voir. La foi, c'est voir dans l'invisible. C'est pas ne rien voir. C'est voir quelque chose. C'est avoir saisi quelque chose. Les héros de la foi, ils ont vu quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, beaucoup ont discerné le Christ avant qu'il vienne sur la terre. Ils ont discerné le Messie. Ils l'ont annoncé. Ils ont vu. Ils l'ont décrit même. Ésaïe qui dit, voilà, on parle des temps de Noël, mais qui disait, voilà, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Emmanuel. Donc ils ont vu par la foi beaucoup de choses, mais ils les ont attendues. Ils ne les ont pas vues complètement réalisées. Et moi, quand je vois que des gens, eh bien, ils ont risqué leur vie, et même, je pense à Shadrach, Meshach, Abednego, qui, pourtant, Dieu se voyait pas. Et le roi qui leur disait, si vous allez pas, si vous servez votre Dieu, c'est la mort. Ce roi-là, il se voyait. Ils ont préféré à obéir à un roi qu'ils ne voyaient pas. Ça, c'est vraiment une dimension de foi étonnante. Et je crois que Dieu nous dit, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous dit, il y a une obéissance qui lui est due à un Dieu qu'on ne voit pas. Le mot assurance, c'est un mot étonnant, le mot assurance. La foi est une ferme assurance. Ce mot assurance, c'est un mot que l'on retrouve au début de l'Épître aux Hébreux et il est traduit par empreinte. Une empreinte. C'est l'empreinte de quoi? L'empreinte du Christ. L'empreinte qui désigne la ressemblance avec Dieu. C'est le mot hypostasis, l'empreinte de Christ. L'assurance, ça nous parle d'une empreinte. L'assurance de la foi, c'est l'empreinte du Christ dans notre cœur. Il y a quelque chose qui a saisi là, qui est du Christ lui-même, et qui est la foi de Dieu même, parfois petite encore, qui est appelée à grandir, mais c'est quelque chose d'invincible. C'est quelque chose qui a été semé dans nos vies, et qui est tellement, tellement appelé à grandir. Alors ça, c'est cette empreinte du Christ, la foi qui nous a été donnée. C'est quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose qui vient de Dieu, que personne ne peut te voler. Et notre part à nous, eh bien, c'est de faire fructifier cette foi, de la mettre en action, de placer notre foi, de la placer avec détermination, avec discernement. Donc l'assurance, c'est le même mot que l'empreinte. Dans Hébreux 11, 13, il est dit, les saints de l'Ancien Testament sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Je crois qu'il est important d'avoir une foi qui n'est pas seulement une foi basée sur ma vie propre, mais une foi basée sur un côté transgénérationnel. C'est-à-dire de planter aujourd'hui, par la foi, des choses qui vont germer peut-être dans les générations d'après seulement. Voyez, donc la dimension de la foi dans la Bible, elle n'est pas pour une génération, C'est une dimension de la foi qui est pour plusieurs générations. Et peut-être qu'on est très centré sur nous-mêmes, sur notre compte bancaire, sur notre problème de santé, tout ça. Mais Dieu voudrait qu'on place notre foi et qu'on plante notre foi dans des domaines qui sont au-delà de nous-mêmes et qui sont transgénérationnels. Et ça, cette foi qui va de génération en génération, qui se transmet, c'est quelque chose qui établit le royaume de Dieu. Non pas avec un seul homme, autant de foi qu'il est, mais avec une lignée d'hommes et de femmes, la lignée d'hommes et de femmes de la foi. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreux 11. Alors c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais juste revenir un peu, une démonstration. L'exemple, c'est Noé. Dieu lui dit, il y aura de la pluie. Alors attendez, rien que le mot pluie, il ne savait pas ce que c'était. Si vous réfléchissez bien, la pluie n'existait pas. Avant le déluge, ça n'existait pas. Et Dieu lui dit, il y aura de la pluie. Alors déjà là, il faut avoir la foi pour comprendre ce que Dieu disait. Et ensuite, il fallait construire un bateau. Il n'en avait jamais construit de sa vie. La démonstration de la foi, c'est quoi? C'est une mise en œuvre de quelque chose en rapport avec ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est mis en œuvre à l'extérieur qui correspond à la confiance que tu as à l'intérieur? C'est ça la foi. La démonstration. Donc il y a quelque chose qui va se voir là. C'est pas seulement quelque chose d'invisible dans ton cœur que tu caches bien. Ta foi, elle se voit. Et c'est l'apôtre Jacques, alors là il y va très fort. Il va dire, s'il n'y a pas les œuvres, c'est qu'il n'y a pas la foi. Alors, ça a été tellement... On s'est scandalisé de l'épître de Jacques. Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que Jacques ne remet pas le salut par les œuvres? Mais Jacques, il dit, non, quand tu as une vraie foi, elle se voit. Et elle se manifeste. Et elle se démontre. Elle se démontre. Alors, c'est ça qu'il voulait dire. Il ne voulait pas remettre le salut par les œuvres, mais il disait qu'une vraie foi, elle se traduit par des œuvres. Alors Noé, l'œuvre de Noé, c'est quand même absolument étonnant. Et pendant des dizaines d'années, pendant 120 ans, il a prêché la foi. Pendant 120 ans, il a espéré dans la foi. Il a construit dans la foi. C'est pas étonnant qu'il soit dans la liste de Hébreux 11. Ça, c'est étonnant. Mais voyez ce que je veux. La démonstration, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a un pas qui se fait en direction d'eux. Moi, souvent, je conseille aux gens, parfois ils disent, moi, je sens quelque chose du Seigneur, mais je suis pas sûr que ça soit de lui, etc. L'important, c'est de faire un pas dans la direction de ce qu'on croit être du Seigneur. On peut se tromper parfois, mais l'important, c'est un pas dans la direction. Et de dire, ce pas, je vais le faire. Je vais le faire et je vais rester. Je vais pas faire un pas reculé. Là, on voit rien. Mais un pas, et c'est mon Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et la lumière de Dieu, elle éclaire ce chemin qui est fait de pas à pas. Donc la foi, c'est une marche. La foi, c'est pas rester assis. Alors parfois, on peut être assis, mais être debout dans l'esprit. Mais la foi, c'est une marche. C'est vraiment une marche, pas à pas. Et cette année 2009, croyez-moi, on a une sacrée marche à faire. Il y a une marche à faire dans beaucoup de domaines. Et il y a des pas à faire, des pas de foi. Et le pas de foi, eh bien, on l'a lu ce matin, il nous a été dit, je marche devant toi. Mais il faut marcher derrière lui. Pour voir les verrous sauter, il faut prendre les pas derrière Jésus, marcher derrière lui. Donc la démonstration, c'est important. La démonstration, la capacité de croire existe en chacun des hommes, en chacun de nous. C'est une capacité qui est naturelle. Mais Dieu a mis une capacité surnaturelle dans la relation avec lui. Il nous transmet la foi. Dans Hébreux 11, 2, il est dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Favorable. La faveur de Dieu sur ces anciens qui ont marché par la foi. Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui veut nous détourner de la foi. Parce que des grandes personnes, des grands philosophes nous ont dit, c'est seulement par ce qui est raisonnable qu'il faut marcher. Alors, parce que tu peux constater avec ta raison, mais Dieu nous dit, il y a un autre monde, il y a un monde invisible, et celui-là, les choses et les trésors dans ce monde, tu peux les avoir que par la foi. C'est par la foi, verset 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Regardez l'attaque par rapport à ce verset, elle est immense. La Bible commence le début, l'explication de la foi en disant « C'est par la foi qu'on reconnaît que ce monde a été formé par la parole de Dieu. » Et on nous enseigne avec virulence, avec quelque chose de systématique, que ce monde n'a pas été fait par la parole de Dieu. La foi, elle est sapée. La foi, elle est combattue. La foi, elle est mise à mal de façon systématique, organisée, intentionnelle, pour qu'une génération se lève et n'ait surtout pas la foi. Parce que la foi, c'est ce qui fait du dégât dans le camp de l'ennemi. La foi, c'est ce qui nous relie à Dieu. C'est ce qui fait venir le royaume de Dieu sur cette terre. Il est bien évident que la grosse artillerie, elle est mise pour qu'une génération se lève sans la foi. Et on va commencer à lui enseigner que le monde n'a pas été fait par la parole de Dieu. Alors que la foi, ça commence par croire que le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que tout ce qu'on voit a été fait par des choses invisibles. Et ma vie, elle est dirigée, ta vie, elle est dirigée par une main invisible, mais qui est une main d'amour. La réalité, c'est pas ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on voit plus ce qu'on ne voit pas. Et l'apôtre, pas l'apôtre, mais le prophète, rappelez-vous, qui est entouré, les ennemis sont autour de la ville, et le serviteur du prophète dit, mais j'ai peur, on va couler. Et le prophète dit, mais Seigneur, que ses yeux voient, s'ouvrent. Et il a pu voir dans l'invisible. Et tout d'un coup, il était assuré, voyant tous ces chars de Dieu, il était assuré que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais il a fallu que les yeux s'ouvrent. C'est quels yeux? C'est les yeux de la foi. Voyez. Et une église prophétique est une église qui a la foi. Ça commence par là, bien sûr. Sinon, on ne fait pas grand-chose, vous savez. On peut dire toutes les prophéties qu'on veut, on peut être tout autant prophétique que l'on veut, mais s'il n'y a pas la foi qui est là, une foi réelle, authentique, à ce moment-là, on perd tout. Donc, voyez, l'auteur fait une déclaration absolument renversante par ce petit verset. Et ce petit verset de croire que le monde a été formé par la parole de Dieu, eh bien, c'est absolument essentiel comme fondement de notre foi. C'est pour ça qu'on s'occupe aussi d'éducation chrétienne. Il n'y aurait rien que ce verset. Ça vaudrait le coup de baser une éducation qui commence avec la foi. Farel, le grand réformateur, disait aux parents, arrêtez de mettre la charrue avant les bœufs. Commencez avec la foi. Commencez avec la foi. Et la foi, elle va déteindre dans toute ma vie. Si je crois en Dieu, ça va se déteindre dans toute ma vie. Si je crois en d'autres choses, ça va déteindre aussi dans toute ma vie. Ce à quoi ton cœur s'attache, c'est ce qui va influencer ta vie. Alors ensuite, on continue, et j'aimerais juste m'arrêter sur le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On va s'arrêter aujourd'hui sur ce verset. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle James Moffat qui a écrit ceci, « La mort n'est jamais le dernier mot dans la vie d'un homme juste. Quand un homme quitte ce monde, qu'il soit juste ou non, il laisse quelque chose dans le monde, quelque chose qui grandira, qui se propagera comme un cancer ou un poison, ou comme quelque chose qui a la senteur d'un bon parfum ou d'une belle fleur, qui imprégnera l'atmosphère de bénédiction. La mort d'un homme juste ou d'un homme tout court, elle a un langage. Et après la mort, ce langage continue de parler. Alors ça, je fais une petite parenthèse, mais je dis, c'est bon parfois, une fois je vous avais fait le coup, je vous avais dit, quel serait le discours que vous aimeriez qu'on fasse à votre tombe? Vous allez me dire, mais décidément, il est joyeux en ce début 2009. Mais il faut savoir que notre vie, elle parle, et que notre mort, elle parlera. Et Abel, il est dit, il parle encore, quoique mort. Il parle encore. Et les morts racontent des histoires, le saviez-vous? Ils ne sont pas silencieux. Ils continuent à parler à ceux qui veulent bien entendre. Abel est mort il y a des milliers d'années. il parle à l'homme aujourd'hui. Et j'aimerais qu'il nous parle ce matin. Et j'aimerais essayer de justement dire qu'est-ce qu'il nous dit ce matin. Lui qui a vécu lorsque la terre était toute nouvelle, il faisait partie de la deuxième génération d'humanité. Assez étonnant. Je pense pas qu'on puisse s'imaginer ce que c'était. Mais il a quelque chose à enseigner à l'homme moderne, l'homme technique, l'homme scientifique, etc. Il a vécu à une période tellement reculée, une culture tellement différente de la nôtre. Et Dieu lui a donné probablement bien moins de lumière que nous en avons. Et pourtant, ce qu'il a à dire, eh bien, c'est quelque chose de tellement, tellement important. Alors, avec les autres personnages de Hébreux 11, Abel, il illustre une foi dont la pureté, eh bien, l'isole nettement de beaucoup d'autres récits. C'est précisément cette distinction qu'on doit faire ce matin. Quelle est cette pureté de foi? Vous savez, Adam et Ève, ils ne devaient pas avoir la foi très développée. Ils voyaient Dieu, ils l'entendaient, ils vivaient dans le jardin. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de foi pour comprendre que Dieu les aimait, pour comprendre que Dieu les chérissait, les conduisait, les dirigeait. Vraiment. Par contre, la deuxième génération, alors là, il a fallu commencer à marcher dans la foi. Et ça, c'était les premiers. Ils ont dû apprendre par leurs parents, Adam et Ève, l'importance qui est Dieu, l'importance de marcher avec lui, etc. Alors la foi d'Abel, elle a donné lieu à trois choses assez progressives. Elle a donné lieu à un véritable sacrifice. Et ça, on va en parler. Elle a donné lieu à une véritable justice. Et elle a donné lieu à un véritable témoignage. C'est parce qu'il a cru en Dieu qu'il a offert un sacrifice. La Bible dit, c'est un sacrifice excellent qu'il a donné, plus excellent. C'est parce qu'il a offert un sacrifice plus excellent qu'il a été déclaré juste. Et puis, c'est parce qu'il a été déclaré juste qu'il est pour tous les temps un message qui nous dit, la justice, elle s'obtient par la foi. C'est ça qu'il nous dit Abel. La justice, elle s'obtient par la foi. Alors voyez, Ève, quand elle était chassée avec Adam du jardin, il y a eu une prophétie. Et Dieu a dit, voilà, ta descendance, eh bien, elle écrasera l'ennemi. La descendance d'Ève. Et Ève, peut-être, elle s'est dit, mon premier enfant, peut-être ça va être lui qui va écraser l'ennemi. Et puis on voit qu'elle a appelé Caïn, elle a appelé son nom, ça veut dire acquérir. J'ai acquis un homme par l'Éternel, c'est ça que ça veut dire. Peut-être elle s'est dit, ça va être par lui que la promesse va se réaliser, de vaincre l'ennemi. Et alors, on sait que Caïn, ça a été le premier meurtrier. Et on sait que c'est pas la chair qui va engendrer la chair. Ève, elle a enfanté Caïn et Abel, mais c'est sa chair. Et ça sera bien autre chose quand Marie recevra une semence du ciel, une semence de Dieu dans sa propre vie. Et c'est le Jésus qui va naître parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et Abel, c'était pas le cas, ni Caïn. Et Abel, le mot veut dire souffle, ça veut dire quelque chose d'éphémère. C'est vrai que sa vie a été courte. Et on se dit, mais pourquoi Dieu a permis qu'il soit mort si jeune? Ça, le mot peut dire aussi vanité. Abel était berger. Et Caïn était un laboureur. Les deux ont été conçus après la chute. Après la chute. Ils sont nés en dehors du jardin d'Éden. Ils sont tous nés dans le péché, me dit la Bible. Et ce sont les deuxième et le troisième hommes à avoir jamais vécu sur terre à l'époque. Alors, vous savez, ce qu'on nous baratine, les premiers hommes, au début, ils ressemblent à des singes, ils ont des poils partout, tout ça. Ensuite, petit à petit, ils deviennent civilisés. La Bible me dit que la nature humaine, elle ressemble à la nôtre. Ils étaient exactement comme nous. Ils n'avaient rien de, il n'y avait pas toutes ces fantaisies qu'on a fait aujourd'hui et qu'on veut divulguer. Ils étaient intelligents. Ils étaient intelligents. Rappelez-vous, lorsque Adam doit nommer tous les animaux, eh bien, je peux vous dire, si moi je vous mettais ici, je faisais défiler des milliers d'animaux, je vous demande de donner un nom, ben vous auriez du mal. Hein, je suis sûr. Mais lui, il a continué à créer comme ça des tas de noms. Ça, c'est extraordinaire. Une intelligence extraordinaire. Et leurs fils ont compris l'élevage, l'agriculture. En peu de générations, les outils, les instruments de musique sont venus. Bref, le récit de la Genèse nous montre que l'homme, image de Dieu, n'était pas si sous-développé que ça. Et bien sûr, il était homme avec ses faiblesses, et on le voit avec Caïn, mais c'était un homme image de Dieu. Et ensuite, on voit que le verset qui dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. » Donc, il est dans la lignée des héros de la foi parce qu'il a offert un sacrifice. Alors, ça, c'est, on réfléchit un peu. C'est étonnant. Dieu, il a créé le fait de l'adorer. Tous les deux, Caïn et Abel, savaient qu'il fallait adorer Dieu. Ça, c'est étonnant. Tout nous est perdu dans la Bible. Mais on sait que Dieu, il a institué l'adoration. Il a institué l'adoration. Jésus va dire plus tard, « Mon Père recherche des adorateurs. » C'est ce qu'il recherche en premier. Mais déjà là, Caïn et Abel, ils savaient qu'ils étaient faits pour adorer. Alors, il est dit que Caïn, il a offert les fruits de la terre, et Abel, il a offert un des premiers-nés de son troupeau. Et il est dit que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et son offrande, mais qu'il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Alors vous allez me dire, c'est quand même injuste. C'est quand même injuste. Les deux ont voulu faire plaisir à Dieu. Les deux ont voulu apporter ce qui leur semblait être une adoration. Et il est dit, après quelque temps dans la Genèse, après quelque temps, au bout de quelque temps, ils sont venus. Je pense que Dieu a créé même un temps pour adorer, mais le problème, c'est la façon d'adorer. Et c'est là qu'est la différence entre Caïn et Abel. Et moi, je crois que Dieu, ça ne nous est pas dit dans la Bible, mais Dieu, il a montré comment l'adorer lui. Et on ne pouvait pas l'adorer sans un sacrifice. Voyez. Et je crois que ils étaient, vu le texte qui nous parle après de comment Dieu a réagi, il est bien clair que Dieu leur avait parlé de comment ils voulaient être adorés. Ils ne laissaient pas ça au hasard. Et quand on voit ensuite dans toute la Bible, toute la législation sur comment adorer Dieu dans l'Ancien Testament, et ensuite dans le Nouveau Testament, comment adorer en esprit, en vérité, Dieu n'a pas laissé au hasard l'adoration. Il avait montré à Abel que l'adoration, et à Caïn, ça demandait un sacrifice. Il est inconcevable que Caïn et Abel aient découvert par hasard comment adorer Dieu. Alors, ça n'a pas été du hasard, Dieu avait parlé. Et donc, Abel, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10. Ils ont entendu la parole de Dieu, tous les deux ont entendu la parole de Dieu. Et Dieu voulait qu'on lui offre un sacrifice. Pourquoi ? À cause du péché. Parce que déjà, le péché est là. Nous sommes la deuxième génération, le péché est là. Il fallait un sacrifice pour le péché, déjà maintenant. Alors, c'est donc par un sacrifice pour le péché que commence la vie par la foi. La foi d'Abel, elle n'est pas basée sur le fait qu'il était meilleur que quelqu'un d'autre. Elle n'était pas basée sur le fait qu'il était peut-être plus gentil que Caïn. La foi d'Abel, elle est basée sur l'obéissance à ce que Dieu avait institué pour être en relation avec lui. C'est ça. C'était pas qu'il était mieux, c'était pas qu'il était meilleur, mais il avait compris son état de pécheur. Il avait compris que pour adorer, il fallait un sacrifice, comme Dieu l'avait demandé. Et alors, en faisant donc Abel, il avait foi en Dieu, et il a obéi en cette foi, et Caïn, lui, il n'a pas reconnu qu'il avait besoin d'un sacrifice. Vous voyez ? Il n'avait pas reconnu qu'il avait besoin d'un sacrifice. Et donc, la foi, elle ne peut pas germer sur un terrain qui ne reconnaît pas qu'il a besoin du sacrifice du Seigneur pour sa vie. Alors, Abel et Caïn, ils savaient ce que Dieu voulait. La différence entre les deux, c'est que Abel, il a offert ce que Dieu voulait, tandis que Caïn a donné ce qu'il a voulu lui. Voyez ? Ce qu'il a voulu lui. Il a voulu servir Dieu à sa manière. Et ça, c'est pas la foi. Voyez ? Et parfois, on peut être tenté à vouloir le servir de notre manière. Caïn croyait en Dieu, sinon il lui aurait pas offert de sacrifice. Il reconnaissait que Dieu est un être suprême. Et même le fait qu'il devait lui rendre une sorte, un culte d'adoration démontre cette compréhension de Dieu. Il reconnaissait Dieu, Caïn, mais il ne lui obéissait pas. Vous voyez, c'est ça. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas Dieu. Vous voyez, il croyait en lui, mais il ne croyait pas ce qu'il disait. Il ne faisait pas ce qu'il disait. Voilà pourquoi la grande différence entre les deux. Et alors, Caïn est devenu le père de toutes les fausses religions. C'est-à-dire, je vais me faire ma propre religion. Je vais adorer Dieu comme je l'entends moi. Je peux me rendre à Dieu en atteignant, je sais pas, les philosophies orientales, hein, par le nirvana, par la méditation, par chacun va trouver un truc, par des œuvres, vont dire des juifs aussi. Mais Dieu dit, c'est sur la base du sacrifice. C'est pour ça quand on prend la Sainte Cène, chaque dimanche, on se dit, ça c'est la base de ma foi, c'est la base de ma vie. C'est pas mes efforts, c'est ce qu'il a fait lui. Et ça, c'est la base de notre foi. C'est pour ça que Abel, dans ses temps reculés, a été un des premiers héros de la foi. Il n'a pas fait grand-chose. Il a offert un sacrifice. Il n'a pas vécu grand-chose, puisqu'il est mort peu de temps après. Mais Dieu a reconnu la foi. Voyez. Alors, ça, c'est la reconnaissance qu'on a besoin d'un sacrifice. Tout commence par là. Tout commence par là. Et je crois qu'on a tous tendance parfois à mettre notre foi ailleurs. Mettons notre foi dans celui qui dit « J'ai donné mon fils pour toi ». Alors, Caïn, il nous est dit, il s'éloigna de la face de l'Éternel. Il s'est éloigné. Et ça, c'est le problème. Vous savez, on veut faire par nous-mêmes et on n'y arrive pas. Chaque fois qu'on fait par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Et alors, on s'éloigne de Dieu. On a honte. On se sent coupable, etc. Et Jude nous dit dans l'épître de Jude, malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Et là, il parle des gens qui se présentent sous couvert de la religion, mais qui en fait renient Dieu. La voie de Caïn, c'est quoi? C'est pas ne pas avoir le mot de Dieu dans la bouche, mais c'est de l'avoir que sur la bouche et pas dans la vie. Ça, c'est la voie de Caïn. C'est vouloir faire notre propre sauce avec Dieu. Alors on prend le message ici, on prend un enseignement là, on prend un peu de la parole ici, on mélange tout et on veut servir comme nous on l'entend. Et ça c'est la voix de Caïn, voyez. Donc la voix d'Abel, c'est cette soumission à Dieu, à sa volonté. Caïn, c'est l'exemple de l'homme religieux qui croit en Dieu, qui croit en la religion, hein, mais selon sa propre volonté, qui rejette la rédemption par le sang. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais en discutant avec les uns et les autres, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est refusé là. Hein. On parle d'un Dieu qui est bon, s'il est bon, il est bon pour tous. Et toute personne qui est sincère, eh bien, elle peut être en relation avec Dieu, etc. Ce genre de discours, eh bien, si vous voulez, il évacue l'importance du sacrifice de Jésus. S'il y avait d'autres moyens, rassurez-vous, il y aurait eu un autre moyen pour Dieu que le fait de donner son Fils unique. S'il y avait eu d'autres moyens, il y en aurait eu. Il y en aurait eu d'autres. Il aurait trouvé autre chose, de moins cruel, de moins radical. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui croit en Dieu, quelque part. Et de plus en plus autour de nous, on va avoir affaire à des gens qui croient en Dieu. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière? Alors Dieu, c'est le Dieu des arbres, c'est le Dieu des champs, c'est le Dieu infini, c'est le Dieu lointain, c'est le Dieu, c'est ton propre Dieu. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, dans le mot Dieu? Mais l'important, c'est... on peut être en relation à Dieu qu'au travers du sacrifice de Jésus. Et ça, c'est le reste, on ne peut pas bâtir de foi en dehors de ça. Voyez. Et donc Abel est cette première pierre. Caïn était un peu hypocrite aussi, il ne voulait pas adorer Dieu, faire semblant de l'adorer, faire semblant. Et son but, eh bien, c'était de se faire plaisir quelque part à lui-même. Voyez donc, Abel a offert un sacrifice plus excellent. Pourquoi? Parce qu'il représentait l'obéissance de la foi. Et vous savez, l'obéissance, c'est ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Le plus plaisir à Dieu. Parfois, dans notre vie, on peut, je sais pas moi, vivre des instants de consécration importants. Prière, méditation, lecture de la Bible. Tout ça est important. Mais si c'est au détriment de l'obéissance que Dieu te demande, le point qu'il te demande, eh bien, on va tourner en rond. On tourne en rond. Et parfois, on veut faire des... Parce que on sait très bien qu'on n'a pas obéi dans un domaine, alors on va essayer de compenser par des œuvres. Et alors on va faire des œuvres pour Dieu. Mais Dieu, ce qu'il demande, c'est notre obéissance. Et c'est ça, il va honorer notre obéissance. Et par l'obéissance, eh bien, nous grandissons dans la foi très vite, très vite. Alors c'est sûr que parfois ça coûte un peu quelque chose. Vous voyez donc Abel et Caïn, c'est assez étonnant. La seule raison pour laquelle Abel a été déclaré juste, c'est que par la foi, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Voilà, c'est simplement pour ça. Il a été déclaré juste à cause de ça. Ce qui compte pour le Seigneur, hein, ce n'est pas notre bonté, mais c'est si nous croyons ou non en lui. Et cette foi, elle se manifeste comment ? En obéissant à sa parole. Jésus même, hein, il va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Donc, vous voyez, la foi, ça va avec l'amour, ça va avec l'obéissance, et tout ça est incarné dans cet exemple merveilleux d'Abel. La foi d'Abel, c'est le genre de foi qui permet à Dieu d'intervenir en notre faveur. La foi d'Abel, c'est la foi qui permet à Dieu d'intervenir en notre faveur. Dieu veut intervenir en notre faveur. Dans notre situation de couple, dans notre situation professionnelle, il veut intervenir. Soyons vraiment assurés de ça. Mais il n'intervient pas sans la foi. Voyez ? Il n'intervient pas sans la foi. La foi, ça attire la présence de Dieu. La foi, elle attire l'action de Dieu. La foi, vraiment, c'est ça qui est tellement important aujourd'hui. Et la foi, elle se nourrit de cette parole de Dieu. Alors, Dieu a déclaré Abel juste. Si vous demeurez en moi et dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31. Alors, voyez, Abel a offert un sacrifice excellent. Il a volontairement apporté à Dieu ce que celui-ci avait demandé. Il a apporté ce qu'il avait de mieux. Le premier sacrifice dans la Bible, c'est l'agneau d'Abel, fait par des hommes, hein, l'agneau d'Abel. Un agneau pour qui ? Pour une personne. Ensuite, plus tard, il y a eu la Pâque. Et la Pâque, c'était un agneau pour une famille. Et ensuite, ça a été le jour des expiations. Un agneau pour une nation. Vous voyez ? Et le vendredi saint, un agneau pour le monde entier. Et tout a commencé par un Abel qui arrive avec sa foi en Dieu et qui lui apporte un agneau. Cette obéissance d'Abel a ouvert la voie à une obéissance de plusieurs générations qui vont amener quelque chose du règne de Dieu pour toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est le principe de Dieu. Ta foi que tu as l'impression être petite, ton combat de la foi dans ton petit domaine, avec tes enfants, avec un mari, avec une situation délicate, ce combat-là de la foi, il ouvre le chemin sur un chemin qui n'a pas de fin, qui n'a pas de fin. Parce que la foi, elle n'a pas de fin. Grandir dans la foi, ça n'a pas de fin. Dieu ne met pas des limites en disant, voilà, là maintenant, tu as assez de foi, ça suffit, il en faut pour les autres. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ta foi personnelle, elle ouvre la voie aussi pour les gens autour de toi, pour ton pays et pour des générations après toi, si Jésus ne revient pas avant. Donc, c'est tellement important. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Hein? Et dans 80 ans, il y aura peut-être plus grand monde au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on aura laissé au suivant, au niveau de notre vie, au niveau de la foi ? Est-ce que notre vie, comme celle d'Abel, parlera encore, voyez. Ça, c'est tellement important. Dieu veut parler au travers des vivants et au travers des morts aussi. Abel a été déclaré juste, non parce qu'il était juste, mais parce qu'il croyait en Dieu. Il était juste parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Hein, voyez. Ça, c'est ce que je voulais souligner ce matin, en ce début d'année 2009. La foi d'Abel. La foi d'Abel. Contre la foi de Caïn. Les deux ont fait quelque chose pour Dieu. Les deux, Caïn, il a dit, mais moi j'ai trimé, j'ai récolté des choses. Mais l'important, la foi, c'est qu'elle se base sur ce que Dieu dit. et non pas sur ce que nous on pense. Voilà, c'est la foi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu es aligné sur ce que Dieu dit? Est-ce que tu alignes ta vie sur ce que Dieu dit sur toi, sur ta famille? Et vous savez, Dieu, il dit toujours des bonnes choses. Dieu, il dit toujours des bonnes choses. Et quand il met le point sur quelque chose, c'est qu'il te le met dans la perspective, d'une perspective extraordinaire. Abel, je ne sais pas jusqu'où il a vu l'agneau de Dieu qui allait venir. Je ne sais pas. Mais les suivants, après, ils ont vu jusqu'à la venue du Messie. Ils l'ont vu. Donc leur foi a vu bien au-delà. Et ça a donné un sens à leur vie. Ça a donné un sens à leur action. Ça a donné un sens à leur engagement. Eh bien, que Dieu nous aide, en ce début d'année 2009, à donner un sens à notre engagement chrétien, un sens à l'engagement de la foi personnelle et collective. Et que le sacrifice parfait que Dieu a fait pour nous, Jésus, qui est notre sacrifice à nous, eh bien, cette base-là, c'est la seule base pour notre vie, pour notre foi, pour notre marche, et qu'elle puisse aller jusqu'au bout de la foi. Quand l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, a pu dire « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course », ça c'est sacrée parole, ça, sacrée parole. On veut être de ceux qui pourront dire ces mêmes paroles. On a couru la course de la foi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la foi que tu nous communiques par ton esprit ce matin, par ta parole. Seigneur, ma prière, c'est que cette année 2009, la foi collective grandisse en nous. Que nous puissions nous approprier les bonnes choses que tu as pour nous, Seigneur. Les choses personnelles, les trésors cachés, qui sont cachés mais pas cachés pour ceux qui cherchent et pour ceux qui t'aiment et ceux qui marchent dans la foi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui disent « mais moi, j'y arriverai jamais ». Et Seigneur, je te prie que tu encourages mes bien-aimés ce matin. Et avec la petite mesure qu'ils ont, je te prie de les aider, de nous aider à avancer dans l'obéissance de la foi, ensemble, là où tu nous appelles, Seigneur. Merci pour l'exemple d'Abel, merci pour l'exemple de Noé, pour la démonstration. Je te prie que 2009 soit une démonstration de la foi que nous avons en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous et qu'on puisse courir cette année une vraie course, une bonne course de la foi, afin que nous nous approprions l'héritage qui est pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter peut-être Émilie à prendre un dernier chant, si l'équipe de louanges peut venir.